un journal présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir. Un nouveau responsable indépendantiste catalan devant la justice espagnole. Le président de la Catalogne, Quim Torra, doit s'expliquer sur les symboles séparatistes accrochés sur les bâtiments publics. Il pourrait être déclaré inéligible. Procès suivi par Marie-Hélène Balestero. En Israël, il reste 48 heures à Benny Gantz pour former un gouvernement. Mais pour l'instant, le leader centriste n'a pas trouvé la bonne formule pour remplacer Benjamin Netanyahou. Nous serons en direct de Jérusalem avec Frédéric Mettezo. En France, le CHU de Rouen, victime d'une cyberattaque ce week-end. Le fonctionnement de l'hôpital reste très perturbé aujourd'hui. Nous ferons le point avec Fiona Mogadam. La Cour des comptes pointe des sureffectifs à la SNCF et la productivité serait insuffisante pour affronter la concurrence européenne. Un rapport rendu public moins de 3 semaines avant la grève du 5 décembre. Les explications à suivre de Marie Viennot. La justice espagnole n'en a pas terminé avec les nationalistes catalans. Cette fois, c'est le président indépendantiste de la Catalogne, Quim Torra, qui est jugé à Barcelone pour désobéissance. Il lui est reproché d'avoir refusé de retirer des symboles séparatistes des bâtiments publics. Ce procès intervient dans un contexte de vives tensions en Catalogne. Le camp indépendantiste multiplie les manifestations contre la condamnation de 9 de ses dirigeants. La correspondance de Marie-Hélène Balestero.
Il l'avait déjà annoncé la veille, je ne me défendrai pas, j'attaquerai l'État. Le président catalan Quim Torra est donc passé à l'attaque ce matin dans la salle d'audience du tribunal supérieur de justice de Catalogne à Barcelone. Assis devant sa femme et l'un de ses fils, son chef de cabinet et le vice-président du Parlement catalan, Torra a adopté un ton assez provocateur et n'a accepté de répondre qu'aux questions de son avocat. Et pour conclure son intervention, il a choisi une bravade comme s'il cherchait à représenter la séquence d'un film.
Non, je ne l'ai pas respecté. Dit d'une autre façon, oui, j'ai désobéi. Mais c'était impossible de respecter une ordonnance illégale. Tous ceux qui sont présents dans cette salle savent qu'il s'agissait d'une ordonnance illégale dictée par un organe non compétent à la matière. Et moi, en tant que président de la Generalitat, j'ai respecté mon devoir qui, j'insiste, est de défendre les droits et libertés de mes concitoyens.
Oui, le président catalan a désobéi et n'a pas respecté l'ordonnance dictée par la commission électorale qui lui demandait de retirer les symboles indépendantistes des édifices publics de la région. Il l'assume complètement. Une désobéissance qu'il justifie au nom de la liberté d'expression. Torra pourrait être destitué. Le parquet réclame à son encontre 20 mois d'inéligibilité et une amende de 30 000 euros. Le tribunal mettra son jugement en délibéré à la fin de l'audience aujourd'hui. La décision devrait être rendue assez rapidement.
Marie-Hélène Balestero, notre correspondante en Espagne. Les députés européens ont approuvé aujourd'hui la candidature du Hongrois Oliver Varelli comme commissaire européen à l'élargissement, ce qui devrait permettre, sauf surprise, une entrée en fonction de l'équipe d'Ursula von der Leyen le 1er décembre prochain. Oliver Varelli, actuel ambassadeur de la Hongrie auprès de l'UE, était le dernier des 27 candidats à la commission à être approuvé par les députés européens. Les eurodéputés qui lui avaient adressé des questions supplémentaires après à l'échec de son audition. Le vote d'investiture de la nouvelle commission de Bruxelles doit avoir lieu le 27 novembre. En Israël, il reste 2 jours pile à Benny Gantz pour former un gouvernement. Le leader de la formation centriste bleu-blanc espère bien remplacer le premier ministre sortant Benjamin Netanyahou. Encore faut-il pour cela bâtir une coalition. Bonsoir Frédéric Mettezo.
Bonsoir à tous.
En direct de Jérusalem, Frédéric. Alors pour l'instant, Benny Gantz n'arrive pas à former un gouvernement et la situation politique israélienne est de plus en plus tendue.
Oui, et la tension vient de l'arithmétique. Pour obtenir une majorité absolue, Benny Gantz a besoin du soutien de la gauche, ça c'est fait, mais aussi des députés du nationaliste anti-arabe Lieberman et des députés arabes. Et ça semble beaucoup plus improbable, surtout depuis la semaine dernière, car les élus arabes ont qualifié les opérations d'Israël à Gaza, je cite, de crimes de guerre, et l'ancien chef d'état-major Benny Gantz ne peut leur donner raison. Netanyahou déclare donc qu'un gouvernement soutenu par les députés député arabe avec, je cite, la bénédiction de Ramallah, Gaza et Téhéran serait un attentat contre Israël. Un chef de file des députés arabes demande lui des gardes du corps pour sa protection, estimant que Netanyahou leur accroche une cible sur le dos. Voilà pourquoi Gantz propose toujours une union nationale avec le Likoud de Netanyahou, mais sans ce dernier. Refus du Likoud et de ses alliés nationalistes et religieux, ce sera avec Netanyahou ou avec personne. Bleu-Blanc dénonce, Stanislas, un spectacle dangereux d'hypocrisie et de mensonges.
Alors question Frédéric, va-t-on forcément vers de nouvelles élections pour sortir du blocage ?
Alors pas forcément, si Gantz échoue dans les 48 heures qui viennent, le Parlement aura alors 3 semaines pour trouver une solution. À ce moment-là, n'importe quel député pourra composer un gouvernement à la majorité absolue. Que fera Avigdor Lieberman ? Cet ancien très proche de Netanyahou s'est fâché avec lui, il est très anti-religieux, il a longuement discuté avec Gantz, mais hier, Lieberman a revu Netanyahou en tête à tête. Autre question, Netanyahou sera-t-il inculpé d'ici là ? Et faute d'accord dans les 3 semaines, là, il y aura bien une nouvelle élection début 2020, ce sera la 3e en moins d'un an.
Frédéric Metezo, correspondant à Jérusalem, merci. La tension est maximale cette nuit à Hong Kong. La police assiège l'université polytechnique de la ville où sont retranchés des dizaines d'opposants radicaux. Les forces de l'ordre menacent de tirer à balles réelles contre les manifestants accusés d'utiliser des armes létales. Malgré la présence policière massive, de nombreux contestataires ont réussi à s'enfuir de l'université. Notre envoyé spécial à Hong Kong, Dominique André, a rencontré l'un de ces manifestants radicaux. Un étudiant venu soutenir ses camarades retranchés dans les locaux. Témoignage anonyme pour raison de sécurité.
Il y a beaucoup de jeunes étudiants et de jeunes protestataires qui sont bloqués à l'intérieur du campus de Polytechnique Université. La population de Hong Kong est fondamentalement inquiète pour eux parce qu'ils se battent pour le territoire depuis de nombreuses heures. Ils ne savent pas où se réfugier maintenant. C'est une très, très mauvaise situation. C'est toujours très dangereux quand on a affaire à la police. Comme vous avez pu l'entendre, il y a eu des cas de disparition et des gens sont morts. Difficile d'avoir accès aux bonnes informations, mais ce sont des nouvelles qui font peur. C'est une très mauvaise situation pour les jeunes qui sont à l'intérieur du campus.
It's my name for you.
Témoignage d'un étudiant recueilli par Dominique André, envoyé spécial à Hong Kong. Les manifestants hongkongais réclament l'instauration du suffrage universel sur leur territoire, ce que refuse Pékin. Le ministère chinois de la Défense a rappelé aujourd'hui sa priorité, mettre fin aux violences et restaurer l'ordre à Hong Kong. Édouard Philippe ouvrait ce matin à Dakar, aux côtés du président sénégalais Macky Sall, le 6e forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Un sommet alors que rien ne semble endiguer la poussée djihadiste qui, après avoir ravagé le Mali, descend vers le sud. Au Burkina Faso, le gouvernement a perdu le contrôle d'un tiers du territoire et il y a risque de contagion vers le Ghana, le Bénin et le Togo. En s'attaquant aux villages et en instrumentalisant les querelles locales, les djihadistes jouent la carte des représailles communautaires. Au Mali et au Burkina, ces massacres interethniques ont déjà fait des centaines de morts. Claude Guibal a rencontré à Ouagadougou l'expert Mahamoudou Savadougou. Il décrypte pour nous ce changement de stratégie des djihadistes.
C'est des vrais stratèges qui savent anticiper et adapter leur stratégie en fonction du déroulement des événements. Ils ont vu les erreurs qu'ils ont commises au Mali. On voit clairement qu'ils ne comptent pas les répéter. Donc, ce n'est pas des groupes qui veulent gouverner parce que gouverner, c'est encore plus difficile. Ça peut se retourner contre eux. On a vu le cas au Mali. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent la pression de façon indirecte sur le pouvoir central en vidant les zones rurales. Les villes vont être de plus en plus insécurisées et la population va mettre la pression sur le pouvoir central qui risque de céder, qui risque d'éclater. C'est une stratégie encore plus pernicieuse que même les attaques directes menées par ces groupes terroristes. Ils sont même en train de communautariser le terrorisme, c'est-à-dire ils essaient d'injecter, de faire passer leurs messages radicaux sans pour autant être visibles. Et c'est cette communauté qui se révolte contre les pouvoirs en place. Voilà pourquoi de plus en plus on a affaire à des insurrections armées locales au Sahel. Donc c'est cette population qui va se lever contre son propre État, mais manipulée par ces groupes terroristes.
L'expert sécuritaire Mahamoudou Savadogo, il répondait à Claude Guibal, notre envoyé spécial au Burkina Faso. Pourquoi la France refuse-t-elle de rapatrier ces djihadistes? C'est la question que posera Emmanuel Laurentin à ses invités dans le temps du débat, juste après ce journal. Un mort, une adolescente de 15 ans et un disparu, c'est le dernier bilan de l'effondrement d'un pont routier ce matin dans le Tarn. Le drame a eu lieu à Mirepoix, près de Toulouse. Le pont construit en 1931 était interdit aux poids lourds de plus de 19 tonnes. Selon France Bleu, l'ouvrage se serait effondré au passage d'un camion d'une entreprise voisine dont le tonnage ne respectait pas la réglementation. Les précisions de Julien Corbière.
Des témoins expliquent que le poids lourd aurait traversé le pont équipé d'une remorque et sur cette remorque un engin de chantier. Selon les informations de France Bleu Occitanie, l'ensemble pesait au total 44 tonnes. On est donc largement au-dessus de la limite autorisée des 19 tonnes. Dans ce cas, ils n'avaient pas le droit d'emprunter l'itinéraire, des panneaux indiquant cette interdiction aux deux entrées du pont. L'engin appartient à Puy Julien Fondation, une entreprise installée à Bessières, juste en face du pont de Mirepoix-sur-Tarn. Les enquêteurs ont procédé cet après-midi à des perquisitions sur place. La société est spécialisée dans le forage de puits, le terrassement et la construction de fondations spéciales. Et sur son site internet, on peut effectivement voir des photos de convois exceptionnels. Une enquête administrative et une enquête judiciaire sont ouvertes pour tenter de comprendre ce qui a provoqué l'effondrement du pont. Mais c'est de plus en plus le poids du convoi et de moins en moins l'état du pont qui pose question ce soir.
Julien Corbière de France Bleu Occitanie. La justice a identifié 250 victimes potentielles du chirurgien à la retraite Joël Le Skouarnec, suspecté de viol et d'agression sexuelle sur des patients mineurs, et cela durant près de 30 ans de carrière dans le centre et l'ouest. Il s'agit d'une affaire de pédophilie d'une ampleur inédite en France. Incarcéré depuis sa mise en examen il y a 2 ans, cet ancien chirurgien de 68 ans devra répondre en mars prochain devant la cour d'assises de la Charente-Maritime d'accusations de viol et d'agression sexuelle sur 4 victimes, des victimes qui étaient mineures à l'époque des faits. Depuis ce week-end, une cyberattaque touche le CHU de Rouen. Le système informatique de l'hôpital a dû être mis à l'arrêt pour éviter toute propagation de cette attaque. Pendant ce temps, le personnel est revenu au papier et au crayon pour travailler, avec pour conséquence d'importants délais dans la prise en charge des patients. Fiona Mogadam, bonsoir.
Bonsoir.
La situation n'est pas encore revenue à la normale.
Non, et ça va prendre plusieurs jours pour que le CHU de Rouen retrouve un fonctionnement normal, au mieux d'ici la fin de la semaine. Face à l'ampleur de la tâche et comme le la procédure, des techniciens de l'ANSSI, l'agence de la sécurité des systèmes d'information, sont venus prêter main forte à l'équipe informatique de l'hôpital. Il y a plus de 200 logiciels à redémarrer un à un pour s'assurer qu'il n'y a plus de virus. C'est donc une opération qui prend du temps. Mais il n'y a a priori rien à craindre pour les fichiers des patients. Rémi M est le directeur de la communication du CHU de Rouen.
Les données des patients et les données du personnel n'ont pas été atteintes. Il y a eu des ordinateurs d'infectés, donc on a des fichiers qui sont du coup cryptés, puisque c'est un cryptovirus. Généralement, dans ce genre de cas, on a une rançon de demander, mais là, ça n'a pas été le cas. Malheureusement, on est attaqué quotidiennement, je dirais. Donc, notre niveau de sécurité au CHU est assez élevé. Les hôpitaux sont maintenant ciblés avec des virus qui sont très agressifs. Donc, on peut se poser la question de... pourquoi on sera sûrement la cible d'autres attaques.
Effectivement, d'après un rapport des entreprises Thales et Verint publié il y a quelques semaines, les cyberattaques dans le secteur médical augmentent significativement. On peut citer l'hôpital d'Issoudun dans l'Indre, victime d'une cyberattaque le mois dernier, les hôpitaux de Montpellier, Saint-Denis ou encore Condrieu dans le Rhône qui ont aussi été touchés il y a plusieurs mois, ou encore des cyberattaques visant 120 établissements de santé d'un groupe privé cet été. Depuis 2017, tout un incident informatique qui touche un hôpital doit être signalé à l'agence régionale de santé. Le CHU de Rouen a également déposé plainte suite à la cyberattaque de ce week-end.
Fiona Mogadam, merci. Revenons à présent sur le procès Helvet Immo, l'affaire de ces prêts immobiliers indexés sur le franc suisse dans les années 2000. Résultat, après 10 ans de remboursement, environ 4000 emprunteurs sont obligés de rembourser plus que leur emprunt initial. Certains pourraient bien être endettés à vie. Sur le banc des prévenus, au tribunal correctionnel de Paris, il y a BNP Personal Finance, la principale filiale crédit de BNP Paribas, connue à l'époque en France sous la marque CTLM. Le tribunal a entendu aujourd'hui un témoignage crucial, celui d'une ancienne directrice régionale de la filiale. Elle avait alerté sa hiérarchie sur les dangers du prêt Helvet Immo. C'est un reportage d'Anne Lorchouin.
Elle était directrice régionale à l'agence BNPPF de la Défense à Paris. C'est à elle et à deux autres directeurs qu'on a soumis ce produit toxique, en termes bancaires on dit structuré, pour les charger de bâtir un argumentaire de vente. Et Nathalie Chevalier raconte qu'elle n'a rien compris, d'abord que sa collègue non plus, qu'une autre collègue plus informée a tout de suite vu qu'il y avait un risque. Elle raconte aussi qu'après avoir demandé si avec ce produit la BNP ne prenait pas un risque, on lui a donné 15 jours pour décider si elle acceptait de le vendre ou partir, que si ce prêt Helvet Immo, basé sur un taux variable, celui de la variation de change entre l'euro et le franc suisse, mais vendu comme un prêt à taux fixe, n'était pas mis vite sur le marché, alors cette filiale de la BNP allait couler. Elle explique aussi comment les intermédiaires chargés d'aller démarcher les emprunteurs ont été désinformés et ont répercuté cette désinformation. Elle explique enfin comment, au moment de la hausse du franc suisse, après la crise des subprimes, on lui a demandé de faire deux piles. À gauche, les emprunteurs sensibles, avocats ou journalistes susceptibles de se retourner contre la banque. À droite, les autres. Un témoignage posé, précis, pédagogique, que presque aucune question de l'avocat de la BNP n'est venue troubler. L'audience a pourtant été suspendue après le malaise d'une victime, choquée, selon son avocat, par ce témoignage accablant.
Anne-Laure Choin depuis le tribunal correctionnel de Paris. Voilà un rapport qui risque d'attiser la colère de nombreux cheminots avant la grève du 5 décembre. Selon la Cour des comptes, la SNCF serait en sureffectif et sa productivité serait insuffisante. La Cour estime que dans ces conditions, l'entreprise ferroviaire aura bien du mal à affronter la prochaine ouverture à la concurrence. Les explications de Marie Viennot.
Pour gagner en productivité et faire face à la concurrence, la SNCF doit faire évoluer son modèle social selon la Cour des comptes qui fait plusieurs recommandations. D'abord, il faut que la SNCF continue à supprimer des postes au même rythme qu'aujourd'hui, soit 1200 équivalents temps plein par an. Jusqu'à maintenant, souligne la Cour, ces suppressions ont surtout touché SNCF Mobilité, c'est-à-dire les trains et les gares, et pas du tout la holding, c'est-à-dire la structure qui chapeaute l'ensemble des filiales. D'où la deuxième recommandation de la Cour des comptes, il faut renégocier l'accord d'entreprise sur l'organisation du travail qui est en l'état inadapté. Les filières métiers n'ont pas été revues depuis 1991, ce qui limite la polyvalence. Et la Cour met également l'accent sur le sous-emploi de certains personnels, soit parce qu'ils sont indisponibles pour raisons médicales, soit sans mission, soit inadaptés aux changements intervenus récemment dans l'entreprise. Plus globalement, c'est tout le modèle social de la SNCF qui est à revoir, selon la Cour des comptes. L'accès à la médecine gratuite, à des logements moins chers dans les zones en tension et aussi, insiste la Cour, à des facilités de circulation qui peuvent aller jusqu'à la gratuité totale des trains pour tous les salariés, les retraités et leurs ascendants. Tout cela pèse sur les comptes de la SNCF, or c'est assez éloigné, considère la Cour des comptes, de son cœur de métier ferroviaire.
Marie Viennot, merci. Une question dans l'actualité politique ce soir. Julien Bayou est-il en train de devenir le nouvel homme fort d'Europe Écologie Les Verts? En tout cas, la motion défendue par le porte-parole d'ELV est arrivée largement en tête ce week-end du vote des militants. 41,3% des voix contre 26,5% au texte défendu par l'ancienne députée Eva Sas. Stéphane Robert, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Il s'agit là d'un résultat intéressant car Julien Bayou n'était pas le candidat de Yannick Jadot, l'actuel homme fort d'Europe Écologie Les Verts.
Non, Julien Bayou, actuel porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, était soutenu par le secrétaire national sortant, David Cormand, qui lui vient d'être élu député européen, mais il n'était pas, vous l'avez dit, celui qui avait la préférence de Yannick Jadot, qui soutenait lui, sans le dire trop ouvertement, la liste portée par l'ancienne députée Eva Sas, liste arrivée, vous l'avez dit encore, en deuxième position à 26%. Ses proches affirment qu'il ne faut pas y voir de désaveu pour Yannick Jadot, mais c'est quand même un signal d'alerte pour celui qui a porté les Verts à 13,5% aux élections européennes et qui fait figure de potentiel candidat à la présidentielle de 2022. Alerte en ce sens qu'il apparaît pour les militants d'Europe Écologie Les Verts comme un candidat trop centriste. Depuis deux ans, Yannick Jadot a toujours prôné une ligne qui se situe en dehors des clivages partisans, de droite ou de gauche, une ligne à l'allemande en quelque sorte, comme Daniel Cohn-Bendit en son temps. Autrement dit, il veut que les écologistes soient d'abord écologistes et en mesure de travailler avec tout le monde pour la défense de l'environnement. Or, ce vote en faveur de l'actuel porte-parole Julien Bayou montre qu'Europe Écologie Les Verts reste avant tout un parti ancré à gauche, même si Bayou défend aujourd'hui lui aussi l'écologie d'abord. Il a toujours en même temps porté un discours social et sociétal très marqué à gauche. Mais cet ancrage à gauche est porté par une assise militante extrêmement restreinte. Ils sont 3250 seulement à avoir voté ce week-end pour désigner leurs favoris. Est-ce que ça correspond aux attentes de la population française en matière de défense de l'environnement? C'est toute la question. Yannick Jadot estime que ce n'est pas le cas. La majorité de ceux qui restent au parti semble apparemment penser le contraire.
Stéphane Robert, merci. On termine ce journal avec le temps demain. Instable sur le sud-est avec des pluies orageuses sur la région PACA et la Corse. Ailleurs, le ciel sera plus calme avec une grisaille tenace sur la plupart des régions. Les températures minimales seront comprises entre 1 et 10 degrés de Lille à Ajaccio. Les maximales oscilleront entre 5 et 15 degrés du nord à la Méditerranée. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.